Okay, I think we're ready to get.
Très bien, je pense que nous sommes prêts pour commencer, quand vous voudrez.
Thanks for joining.
Merci d'être ici ce soir. Bonsoir à tous. Bonjour. Je ne sais pas où vous êtes. Je suis gestionnaire, coordinateur des panel, responsable de tous les tests de prédélégation des nouveaux GTLD. Et celle-ci, c'est la séance sur les tests de prédélégation. Nous espérons que suite à cette séance, vous vous sentirez plus préparé de ce que c'est, plus au courant, que vous soyez tous au courant de ce que c'est que les tests de prédélégation. Nous avons ici Francisco Arias, de l'équipe de liaison des registres, et Patrick, représentant du fournisseur de tests de prédélégation. Il s'agit d'experts en la matière. Ce processus est appelé PDT, test de prédélégation, nous l'abrégeons PDT. Nous allons vous montrer un aperçu de ce processus PDT. Nous allons vous parler des spécificités de ce processus au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la phase opérationnelle. Nous allons vous donner des résultats des tests pilotes, des tests bêta pilotes. Et puis, je vais donner la parole à Patrick qui va m'aider à vous montrer comment les candidats peuvent se préparer à ces tests de prédélégation. Nous allons voir les différents types de tests. Nous allons vous commenter quelles sont les difficultés que l'on peut prévenir pour que les choses se passent de la meilleure façon. Les communications, quand vous vous contactez avec le fournisseur de PDT, etc. Et puis, il y aura une séance de questions-réponses. Nous allons donc commencer. Qu'est-ce que c'est que les tests de prédélégation PDT? Ceux qui ont été à Pékin, vous avez vu une diapo similaire. C'est une étape de vérification conformément à la section 5.2 du guide de candidature où l'on vérifie les systèmes du registre afin de s'assurer qu'ils soient prêts pour entrer en production. On vérifie les documentations, les attestations ainsi que d'autres documents, les accords nécessaires passés avec l'agent de dépôt de données, puis on met en œuvre des tests. Il y a 4 éléments conventionnels et un élément optionnel, c'est-à-dire 4 éléments obligatoires et un élément optionnel, ce serait le IDN. Donc, où peut-on mettre le PDT dans le cadre du programme? Dans la partie de traitement des candidatures, après la conclusion des contrats, il faut avoir un accord de registre déjà mis en œuvre et il faut que le système soit prêt pour la production. Ce sont des conditions préalables pour pouvoir mettre en place les tests de post-délégation. Une fois que le contrat, on dit que le candidat est éligible au PDT, on peut mettre en place ces tests. Mais parlons maintenant du processus en lui-même. Le processus comporte 3 étapes principales. Les activités de préparation en premier lieu, les activités de test deuxièmement et finalement le rapport de résultats. Les activités de préparation commencent lorsque notre équipe est notifiée par rapport au fait qu'il y a un contrat éligible au PDT. À ce moment-là, on établit une notification d'éligibilité par le biais de nos systèmes RM. Vous nous donnez les informations de contact pour le PDT, ainsi que le moment disponible pour mettre en place ces PDT. Toutes ces informations, nous les recevons en fonction d'un ordre de priorité afin d'établir une date pour la mise en place, établir un rendez-vous, si vous voulez, pour la mise en place de ces PDT. L'important, c'est que vous ne devez pas vous connecter directement pour le PDT. Si vous pouvez nous répondre que vous ne serez prêt que dans un mois ou que vous êtes déjà prêt, nous allons définir le rendez-vous pour ce test pilote en fonction de votre disponibilité. Une semaine avant ce rendez-vous pour le test pilote, vous allez recevoir un courriel ou le contact des PDT recevra un courriel du fournisseur de PDT qui va lui donner les identifiants pour commencer à saisir des données dans le système de PDT. Ces données doivent être saisies dans le système pour le vendredi précédent le test. Si le test va commencer lundi, les données dans le système de PDT doivent être déjà saisies le vendredi d'avant à 11h59 UTC. On espère que ce test est censé durer 2 semaines. Si elle commence un lundi et s'il y a un problème à éviter, nous avons les outils de courriel pour établir des contacts ou les communications nécessaires. Dans ce cas, le processus pourrait s'étendre d'une semaine, se prolonger d'une semaine. Il n'y a pas de notification formelle pour cela, c'est un accord entre les parties. Vous allez savoir quand le test finit, mais il n'y a rien qui empêche la prolongation de ces tests. On identifie donc les problèmes qui peuvent surgir et dans ces cas, on peut demander un prolongement. Notre objectif, c'est de vous fournir un rapport de résultats au bout de 2 semaines. Cela revient au contact primaire par le système RM. On reçoit donc les résultats primaires et le rapport de test pour bien comprendre les détails de ce test. Au départ, nous allons beaucoup travailler pour essayer de respecter ce délai de 2 semaines. Mais en général, je crois que cela va nous prendre 3 semaines. En fonction de la capacité, il se peut qu'au départ, ce délai de 2 semaines se prolonge d'une semaine de plus. Je voudrais vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce rapport de résultats. Ce n'est qu'une partie, celle qui est affichée sur l'écran, mais vous voyez qu'il y a 3 niveaux de résultats. D'un côté, on a le résultat global. J'ai réussi ou pas le test de délégation. Donc, tout d'abord, on dit que la candidature a approuvé ou non le test de prédélégation. Par la suite, nous avons un niveau plus poussé de détails. Donc, on a passe ou fail, c'est-à-dire approuvé ou non approuvé, et cela va apparaître à chaque niveau. Tout ce qui est non approuvé ou non réussi sera accompagné d'une explication pour savoir quelle a été la défaillance par rapport à la condition exigée. Nous allons parler maintenant de la situation, l'état actuel, l'état de situation des PDT. Tel que Christina l'a déjà dit, nous sommes prêts du point de vue opérationnel pour mettre en place les PDT. Quand on aura les contrats, la notification d'éligibilité doit être notifiée. Et nous essayons de tout mettre en œuvre pour que ce soit fait cette semaine. À ce moment-là, les versions de production sont mises en route avec les vérifications des matériels de test, les fichiers, etc. Tout cela est disponible sur le micro-site. Et c'est ce que nous allons utiliser pour les tests. Nous allons parler un petit peu des changements qui ont été introduits dans les spécifications des PDT afin de nous préparer à la production. Comme Christine l'a déjà dit, nous avons eu un grand dialogue, beaucoup de dialogues avec la communauté, y compris avant la réunion de Pékin et bien entendu après la réunion de Pékin, par rapport à ces spécifications. Ce dialogue a été très riche et a porté des fruits pour l'ICANN, ainsi que pour les fournisseurs et pour tous ceux qui y ont été engagés, pour comprendre quels pouvaient être les inconvénients. Depuis quelques semaines, nous avons éliminé les tests de Anycast. Tout va bien? Je pense que là-bas, il y a quelque chose de plus amusant, hein? Il y a une séance plus amusante, là. Nous avons donc éliminé les tests d'instance Anycast et nous les avons remplacés par ce que nous appelons les tests de DNS distribués. Nous sommes en Afrique, bien entendu, hein. Il n'y a aucun doute que l'on est en Afrique. On peut sentir l'esprit africain. Donc, nous avons changé notre approche par rapport à un grand nombre de documents. Et cela est lié à une question qui a été posée à la séance précédente. Nous ne sommes pas en train... Dans le test technique, on fait une validation vis-à-vis du système que vous avez, vis-à-vis des conditions exigées dans le point 5.2 du guide de candidature et par rapport à ce qui est établi dans l'accord de registre. On peut valider en fonction des spécifications des accords ou en fonction de l'annexe A. Par exemple, pour les champs Ruiz. La vérification des champs Ruiz est demandée en fonction de la spécification 4. C'est une condition pour le test de prédélégation. Pour le Ruiz, il faut vérifier qu'il permette de faire les recherches. Et dans ce cas, il faut donc vérifier si ces conditions sont remplies ou pas. Si l'accord de registre ne demande pas, n'exige pas ce type de test, alors, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à cela. En ce qui concerne l'extension EPP, c'est quelque chose que nous faisons en établissant des correspondances entre les extensions EPP avec une liste où figurent tous les éléments. Et nous avons essayé de simplifier ce processus pour voir quels sont les exigences établies dans l'accord de registre. Ces extensions EPP sont demandées par l'accord de registre. Ces extensions donc EPP que vous avez pu identifier pour soutenir la candidature, ce soutien n'est pas nécessaire au moment du lancement. Il faut valider l'extension EPP demandé par DNCSEC. Et toutes les tables IDN qui figurent dans l'annexe A doivent être également validées conformément à ce qui est indiqué dans l'accord de registre. Par la suite, suite à la conversation, à la discussion avec la communauté, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines ambiguïtés par rapport à ce qu'il fallait pour approuver ou désapprouver ces tests de prédélégation. Nous avons donc concentré nos efforts au cours des dernières semaines pour nous assurer que l'on pouvait améliorer ces spécifications et préciser quels sont les critères pour approuver ou ne pas approuver chaque aspect du test. Vous allez trouver ces informations si vous êtes familiarisé avec les spécifications de test. Il y a une section dans le point 8 dans les spécifications, dans les cas de test, et c'est là où vous allez trouver les critères pour l'approbation ou la désapprobation des tests. Et là, vous allez voir quel est le résultat escompté ou que l'on attend pour chacune des étapes. Nous avons beaucoup parlé à Pékin sur le fait que l'on venait de finir le programme pilote. Nous avons fini donc le programme pilote en mars. Nous avons eu 9 fournisseurs de services de registre différents avec 9 TLD différents. Et nous avons voulu nous assurer que le système fonctionne, mais bien entendu, on a identifié des domaines où l'on pouvait s'améliorer. Par la suite, cet accord de registre a été soumis à une consultation publique. On a utilisé ce temps pour mettre en place les tests bêta qui ont commencé en avril et qui se poursuivent encore. Nous arrivons déjà à la fin de ces tests On arrive aux derniers résultats des tests bêta et les derniers seront complétés le 2 août. On a utilisé 45 rendez-vous avec 24 fournisseurs de registres pour pouvoir donner les informations nécessaires afin que tous les fournisseurs puissent être préparés à entrer en production. Je vais donc passer la parole à Patrick maintenant pour qu'il nous aide à comprendre comment vous devez vous préparer de façon adéquate au processus PDT. Je suis Patrick Hilson, je travaille pour .sc. Certains d'entre vous nous connaissent comme Nick SCC. Je suis le responsable du service de production. « Nous voulions vous montrer un panorama des différents éléments qui sont évalués. Vous voyez comment ces éléments étaient approuvés ou pas. Je vais vous montrer ces statistiques et puis je vais faire référence à chaque niveau de test en particulier. Le chiffre que la plupart d'entre vous attend, c'est que, de manière générale, le taux d'approbation des candidats se rapproche de 40%. Or, cela s'améliore si l'on prend les différents cas séparément. En général, le test de diversité du réseau de DNS O4, c'est le test où l'on a plus de désapprobation. Pour EPP, cela est plutôt lié à la connectivité. La plupart des tests n'ont pas pu être réalisés parce que le fournisseur EPP ne pouvait pas se connecter correctement. Pour ce qui est du dépôt de données, les candidats ont eu des niveaux d'approbation très élevés, mais en ce qui concerne la documentation, nous avons un taux de succès assez important, mais cela a nécessité de beaucoup d'énergie des deux parties, beaucoup de consultations, des informations qui allaient et venaient pour pouvoir s'assurer que tout soit clair et que des résultats satisfaisants puissent être obtenus. Ce que vous voyez, IDN, ne dépend pas des autres tests. Le test d'IDN ne dépend pas des autres tests. Le test qui est la source de problèmes, c'est les tables d'IDN. Là où l'on voit IDN ou IDN EPP, on voit les statistiques qui dépendent de EPP. Les problèmes que nous avons pu identifier, on ne savait pas si on allait mettre en place ou non EPP avec la politique d'IDN. Comme vous l'avez vu, les tests de DNS ont obtenu 56% de taux de succès. La plupart des problèmes sont liés aux tests de diversité de réseau de DNSS0Cotre qui vérifie les numéros du système autonome. La condition, l'exigence, et cela est lié aux conditions de l'IANA, c'est que ces résultats doivent être annoncés pour IPv4 et pour IPv6. Nous avons mis en place cette vérification en utilisant le service d'information de routage RIPE. C'est un programme public qui peut être utilisé pour mettre en place cette vérification avant de commencer le PDT. On constate que beaucoup de candidats n'annonçaient que à partir d'une ACN, que ce soit pour IPv4 que pour IPv6. De manière générale, avec les tests de quiz, nous avons obtenu un taux de succès plus élevé parmi les candidats. Mais de toute façon, on peut constater qu'il y a un nombre important d'échanges qui ont dû être mis en place pour obtenir ces chiffres. Les problèmes principaux auxquels nous avons été confrontés sont liés à trois éléments. D'un côté, un format qui ne respecte pas la spécification 4 de l'accord de registre. Et cette condition, c'est notre exemple national. Deuxièmement, quand on met en place les tests de Ruiz, on a constaté des problèmes d'accès. Il s'agit d'un service public et il ne devrait pas y avoir un accès restreint à ces services de Ruiz. Et finalement, à partir du test bêta, on utiliser donc une candidature pour voir si elle permettait de faire des recherches sur le quiz. Sur l'annexe A, on spécifie ce service et si c'est le cas, il faut remplir les exigences. Beaucoup de candidats n'avaient pas le support nécessaire pour les tests bêta dans ce domaine. En outre, pour les conditions de test, nous avons demandé à ce que les usagers puissent avoir des instructions. Autrement, sans les instructions, le service n'a aucun bénéfice public et on ne peut pas qualifier la structure. Il faut qu'elle soit suffisante pour que nous puissions réaliser les tests. Les tests EPP. De façon générale, c'est là où on a obtenu 70% de taux de succès au niveau du test. Nous avons ajusté les critères pour les tests d'extension EPP, tels que je l'ai dit avant. Maintenant, nous ne vérifions que le fait que les extensions EPP pour DNSSEC existent. Avant, on essayait d'établir des correspondances avec le serveur. On n'a pas exigé d'autres types de vérification pour ce test. De toute façon, on a pu constater nombre de problèmes liés à la connectivité. Les adresses IP du nœud de test de PDT, ces nœuds doivent avoir accès à leur système EPP. En ce qui concerne la connectivité, nous avons les certificats des clients. Si leur système nécessite un certificat de client, les données d'entrée PDT-EPP.xml sont nécessaires. Et à ce moment-là, il faudra délivrer un certificat PKCS12 où soit inclus la partie publique que la partie privée sur la base du codage base 64. Une fois qu'on peut se connecter avec le serveur EPP, on a pu constater des problèmes avec la mise en place de EPP qui ne respectaient pas les délais de mise à jour des DNS tels que cela est établi dans les accords de niveau de service. Pour ce qui est du dépôt de données, nous avons obtenu un taux de succès de 100%. Or, il a fallu beaucoup de dialogue entre les parties pour arriver à ces résultats, beaucoup de dialogue avec les contacts de PDT pour pouvoir donc obtenir ces résultats. Les questions les plus fréquentes que nous avons pu identifier concernent trois sujets. D'un côté, le nom des fichiers. Il est important que les fichiers pour le dépôt de données utilisent la convention de fichiers correcte et qu'ils aient été traités conformément aux exigences. Les fichiers XML doivent être stockés dans un fichier RAID TAR et puis cryptés dans un fichier RAID. Puis, on a la question de la signature valable. Il faut s'assurer que cette signature soit séparée, qu'elle puisse être valable en utilisant une clé publique. Le troisième point concerne le XML valable. Le dépôt de données est constitué par des données qui doivent pouvoir être validées au moyen d'outils XML. Le XML peut être utile pour identifier les informations avant de nous les envoyer.
Les tests de documentation ont eu un taux de succès élevé, mais cela a pris aussi beaucoup de dialogue avec les points de contact pour pouvoir faire cette évaluation. Nous allons améliorer la clarté dans les conditions et les exigences, ce que l'on essaie et comment cela est validé dans les spécifications. Nous essayons aussi tirer au clair le modèle d'entrée pour les auto-certifications. L'idée est de présenter l'échange de questions pour mieux orienter les candidats. Nous avons demandé quelques cas où l'on a vu apparaître les mêmes questions de suivi.
Le test de charge.
Le candidat doit avoir une largeur de bande suffisante pour les opérations normales ainsi que l'information sur la capacité disponible. L'épreuve, le test point DNS5 demande une documentation dans l'allocation de NSProbe par rapport aux objectifs du test. Le DNS Probe utilisé pour mesurer la latence doit être sur le bord du réseau lié au serveur DNS. Au point DNS, on a besoin de toute une série de déclarations sur les contenus de réponse de du test de charge. La condition est que les réponses soient zone data, NX, domain or no data. Toute autre réponse est considérée non valable. Nous avons enfin établi une liste de conseils génériques pour les questions de suivi. La première concerne le respect des conditions de façon aussi stricte que possible. Lorsque cela n'est pas le cas, nous vous prions de nous indiquer pourquoi vous ne pouvez pas. Si la condition nous exige 10 data points, n'en restez pas à 9. Si la condition exige des données jusqu'à une inclusion des 10% de perte de queries, n'en restez pas à 10% de moins. Si dans la condition on vous demande des graphes et des tableaux, ne laissez pas ces graphes et ces tableaux hors de ce que l'on vous demande. Les réponses doivent être autonomes. Même si l'information est présentée dans la candidature, dans une annexe de la candidature, ce document peut ne pas être disponible pour nous. Donc, lorsque nous faisons l'évaluation des documents d'autocertification, nous vous demandons de répéter l'information pertinente dans le document d'autocertification pour que ce soit aussi indépendant et autonome que possible. Tous les tests de charge ne demandent pas une vérification concrète. Plusieurs points sont laissés à la discrétion du candidat. Le test est une modalité, mais l'extrapolation de données des charges de tests et des données existantes est une possibilité. Tant que vous penserez que vous pouvez travailler avec ces données et que les data points sont corrects, pour nous ce sera correct. Ne faites pas davantage que ce que l'on vous demande. Si les instructions ne sont pas claires, faites-nous savoir cela pour que nous puissions vous aider à tout répondre. Si le document d'autocertification dépasse une longueur de 50 pages, il se peut qu'il y ait certaines erreurs. Nous avons approuvé des autocertifications ayant moins de 10 pages. N'oubliez pas lire les spécifications de référence. Tous les tableaux d'IDN et politique vont être évalués sur cette base. La déclaration de politique est un point central. Elle doit décrire les politiques IDN de façon suffisamment précise pour que les tableaux puissent être évalués. Un résumé ne se substitue pas à cette déclaration détaillée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les tests d'IDN EPP sont liés aux tests de EPP. Si nous n'avons pas nous connecter avec le serveur EPP, alors l'épreuve de relation d'IDN EPP et d'IDN valide 07 à 08 ont des résultats non satisfaisants. À peu près 50% des candidats ont réussi à ces tests élémentaires d'EPP. La moitié de ceux qui ont échoué l'ont été parce que les politiques n'avaient pas été mises en œuvre dans le serveur EPP. La moitié de ceux qui n'avaient pas été approuvés concernaient le fait que le système de back-end d'EPP n'avait pas de support IDN disponible. Cette condition a changé et maintenant on accepte la candidature avec une notification ou un avis qui ne se reflète pas dans le taux actuel de candidature acceptée. Nous avons établi une liste de vérifications pour que vous puissiez vous centrer sur les points importants. D'abord, il faut sélectionner un contact de PDT disponible pour tout le processus de test de PDT. Ce sera le seul point de contact du fournisseur de PDT qui fera le suivi des questions que nous aurons à poser. Le contact doit être une personne ayant des connaissances d'infrastructure et des services de registre. Deuxièmement, réviser les ressources de PDT sur le microsite de l'ICANN. depuis le test bêta, cela a été actualisé, cela a été mis à jour. Troisièmement, servez-vous des outils d'autotest avant d'entrer au PDT. Lisez les questions et réponses fréquentes disponibles sur le microsite. Quatrièmement, en même temps que vous servez des outils d'autoroute, le service excellent d'information sur le routage RIPE est un moyen superbe pour ne pas échouer au test de diversité de réseau. Assurez-vous de reformater la réponse du WHOIS par rapport à la spécification 4. Et assurez-vous aussi d'accorder un accès à la personne s'occupant de PDT, au serveur DPP. Finalisez votre DPS suivant la RFC 6841 et enfin n'oubliez pas l'accord de dépôt de données qui a dû être passé. Je voudrais enfin remercier tous les participants au test bêta. Vos commentaires ont été précieux pour nous parce qu'ils nous ont aidés à fournir un bien meilleur service. Merci beaucoup Patrick et avant de quitter avant de cesser de parler de cela, il y a une question posée pendant la séance de Christine par rapport au document de PS. Si vous donnez une version dans la présentation de candidature qui n'est plus valable, nous avons besoin d'une version mise à jour. Donc, il faut que la version soumise à test dans le PDT doit être absolument compatible avec le IDC. Bon, les communications, malheureusement, il y a eu beaucoup de candidats qui ont échoué au test bêta pour cette raison. Nous avons essayé d'améliorer les choses et j'espère que nous avons réussi. Nous allons continuer de travailler pour améliorer ce que nous offrons. Nous allons donc nous allons écouter les questions à la fin. Il reste encore deux diapos. J'aurais dû dire cela dès le début. Nous avons déployé depuis Beijing un module, un portail de service aux clients qui a été lancé la semaine dernière, un module qui a été mis à jour avec cet outil pour gérer la PDT. Je vous demande donc, ou enfin je vous suggère alors que les communications par rapport à la PDT entre le candidat et l'ICANN passent par l'intermédiaire de ce portail. Servez-vous des questions pour demander sur les rendez-vous et les modifications, des questions sur les procédures et les conditions avant d'entrer dans la PDT et même pendant la PDT. Pendant le PDT, s'il y a quelque chose qui n'est pas résolu entre vous et le fournisseur de PDT, servez-vous du portail du client pour résoudre un certain thème. Essayez de travailler avec le fournisseur pendant le PDT. Nous savons qu'il y a des problèmes concernant le temps, si quelque chose n'est pas résolu ou s'il y a une autre question. Mais vous pouvez poser cette question dans le portail du service au client, nous allons y répondre. Une fois complétée la procédure, vous allez recevoir le rapport. Si vous avez des questions sur le rapport du test, posez ces questions à l'ICANN et non pas au fournisseur. Le rapport avec l'ICANN doit être aussi étroit que possible. Le fournisseur de PDT doit se centrer sur la réponse aux questions des candidats qui sont soumis au PDT. La prochaine diapositive. Pendant le PDT, nous vous demandons de bien vouloir utiliser l'outil pour les précisions sur les conditions du fournisseur. Il y a un outil de messagerie dans le système de PDT. Nous recevons des opinions. À cet égard, lorsque nous avons vu le nombre de questions qui apparaissaient sur le PDT, nous avons amélioré cet outil. Et le lancement de l'outil amélioré se fera à la fin du mois. Essayez de vous servir autant que possible de cet outil pour les questions. Il y a aussi une adresse électronique et des questions. Questions-réponses fréquentes. S'il y a des questions qui ne sont pas sur lesquelles vous n'avez pas senti que la réponse était claire par rapport à la messagerie, ou bien si vous pensez que les questions qui arrivent à la boîte d'entrée de la messagerie peuvent vous aider. les fournisseurs travaillent pour résoudre les questions et répondre à ces questions dans le délai d'un jour ouvrable. Certains thèmes doivent être enfin renvoyés à l'ICANN pour des questions de fuseau horaire et cela peut prendre 2 jours. Mais nous allons vous le faire savoir pour que vous soyez au courant et que vous soyez tranquille. Et même si nous sommes en Suisse, nous travaillons avec un emploi du temps étendu. On va répondre à des questions entre 5h et 19h UTC. C'est pratiquement 14 heures de service. Cela devrait permettre de traiter toute une série de questions de pratiquement partout dans le monde avec certaines concessions de la part des candidats. Enfin, nous voulions vous montrer une image du nouvel outil de messagerie. Ce que vous voyez là, les caractéristiques du nouvel outil. Pour ceux qui sont des contacts du PDT, n'ont pas encore vu cela. Nous avons d'abord thème ou question pour les messages, le pour et le A et le 2, le fil des thèmes qui sont discutés se fait sur les thèmes qui font l'objet de débats, ce qui permet de formater le message de façon adéquate. Je crois que les changements des pages, enfin les lignes pour changer de page posaient des difficultés. Donc nous avons amélioré tout cela dans cette nouvelle mise à jour. Pour le 30 juillet, vous pourrez vous servir de cela parce que cela aura été déployé. Voilà tout ce que j'avais à dire dans la présentation. Nous pouvons peut-être maintenant écouter les questions. Je veux répéter ce que Patrick a dit. Je veux remercier tous ceux qui ont participé au programme bêta, au programme pilote et à tous ceux qui ont participé au dialogue au cours des derniers mois. Cela a été vraiment très fructueux pour tous et j'espère que cela a été le cas pour vous aussi. Je voulais aussi remercier l'équipe de l'ICANN de m'avoir soutenu et d'avoir soutenu l'équipe du PDT. Je crois que l'équipe a fait un excellent travail pour la construction du système et des services pour le système sur des délais vraiment très brefs. Je crois qu'il y a quelques questions qui sont posées à distance. Nous devrions peut-être commencer par les questions posées à distance et répondre ensuite aux questions qui sont posées dans la salle. Première question, lorsque nous avons fait le test bêta, il y a eu un point où l'on disait les variantes de deuxième niveau liées au DNSSEC EPP qui ne sont pas compatibles avec le système EPP. Nous avons changé le DNSSEC pour qu'il soit compatible avec le système EPP. Est-ce que nous avons besoin de faire des modifications dans notre candidature, notre présentation de candidature pour être accepté dans le PDT, Francisco? Moi, j'étais dans la salle de chat avec la personne qui pose la question sur Adobe Connect. Et je ne suis pas très sûre exactement de comprendre la question. Si la question est de savoir s'il faut respecter RFC 5910, bon, la réponse est oui. Il faut respecter cet RFC. Le microphone est très haut. Je m'appelle Akith Andres, j'appartiens à Verisign et j'ai 2 questions, enfin 2 demandes. La deuxième, je vais la lire, mais la première, je ne le ferai pas. Ma première question est la suivante. Quand pouvons-nous attendre une version de Redline dans les réunions de l'ICANN? Il y a généralement une demande de publication 15 jours à l'avance par rapport à la séance pour que tout le monde puisse se préparer, évaluer, etc. Nous comprenons qu'il y a une urgence par rapport à ce que nous faisons et nous vous remercions vraiment des efforts que vous faites, mais une Redline serait très utile pour aider l'équipe à se préparer avant d'arriver dans la réunion. Donc, s'il y a d'autres questions ou d'autres recommandations que nous voulons présenter, bon, le plus tôt possible, une red line, une ligne rouge, une Notre butoir serait très bonne. Et l'autre question se rapporte aux EPP, là, aux extensions EPP. Ma question se rapporte à cela. Je vais lire ce que mes ingénieurs m'ont envoyé. L'item clé consiste à savoir que nous devons avoir la capacité de héberger bon nombre de TLD avec beaucoup d'extensions et de capacités dans le système. L'EPP est un ajout de tous les services possibles d'un serveur, tandis que les TLD spécifiques ne peuvent supporter qu'un sous-groupe de services. Le point de l'EPP qui doit respecter les objets et les extensions spécifiées dans l'extension demande l'existence d'un point d'accès par TLD qui éliminerait le soutien des plateformes communes que nous avons développées. Cette validation n'est pas valable pour le test PDT et il doit être supprimé. La seule vérification que nous faisons des extensions se rapporte aux EPP DNSSEC. Oui, vous avez demandé aussi quand nous pouvons publier la mise à jour. C'est la redline, c'est cela la redline. Bon, nous allons le publier au plus tôt possible. Nous espérons pouvoir le faire avant la fin de la semaine. Le plus tôt possible, ce sera le mieux. Nous avons le vieux document, le nouveau document. Nous pouvons les comparer. Ils sont sous format PDF, donc nous allons accélérer notre travail. Il y a une question posée à distance de Assam Lupani, il demande de ce qui suit. Les spécifications de PDT en ligne suggèrent que .se émette un outil d'autotest pour les opérations d'enregistre. Deux questions. Cela a été dit il y a 2 mois. Quand est-ce que cela sera mis? Et la deuxième question, c'est que fera exactement cet outil? Je vais essayer de répondre à cette question. L'outil d'autotest d'EPP est intégré dans notre infrastructure à l'heure actuelle, ce qui rend difficile sa suppression. Donc nous travaillons là-dessus, nous faisons des grands efforts pour cela, mais je n'ai pas encore de date à vous donner sur cela. Cependant, je peux de toute façon recontacter la personne qui a posé la question après en avoir parlé avec mon équipe. L'outil sera un substitut ou, je devrais dire, fera exactement ce que nous ferons. L'outil fera exactement ce que nous ferons dans les tests d'EPP automatisés. Lorsque l'utilisateur démarre cet outil, il devrait avoir les mêmes résultats que lorsqu'il fait le PDT. Merci. Jeff Newman. Merci, Ross, du nouvel outil de communication. Je crois que cela va être très utile. C'est très difficile. Je crois que nous avons 150 messages qui font un aller-retour sans qu'il y ait une indication de l'affaire à traiter. Bon, c'était vraiment impossible de pouvoir communiquer. Donc, la ligne rouge ou de contrôle de modification est très utile. Mais vous avez dit que le critère d'acceptation ou de rejet a été adopté. Nous ne voyons pas ça sur le document. Ce qui est accepté, c'est une expérience très frustrante. Il semble bien qu'il y ait certaines choses qui ou bien n'apparaissent pas sur le guide, ni sur le contrat, ni sur le RFC. Il semble bien que c'est des interprétations faites par le personnel de l'ICANN ou par le fournisseur du PDT. Je ne sais pas qui en a pris la décision. Et cela a été une vraie frustration parce que, à notre avis, Il s'agit des documents clés à suivre, le contrat, le guide du candidat et le RFC. Et lorsque nous avons fait un commentaire, par exemple, moi je ne suis pas ingénieur, hein, mais il y a une non-conformité par rapport à la spécification XMLC par rapport à RFC 3. C'est ridicule comme réponse, c'est frustrant et la frustration que j'exprime ici n'a rien à voir avec les sentiments de mes ingénieurs. Cela n'apparaît pas dans le contrat, ni dans le guide, ni dans le RFC. Et vous nous dites que nous ne pouvons pas être acceptés parce que cette spécification XML, C3M, je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur. Il y a d'autres points dont vous disposez qui sont là et qui demandent des nombres ASN. Cette condition n'apparaît pas non plus dans le contrat, ni sur le guide. Donc il faut que cela apparaisse sur deux réseaux topologiquement séparés. Et j'ai cru comprendre qu'il y a eu un débat à cet égard. Il y a eu beaucoup de débats pendant de longues années. Qu'est-ce que cela signifie? Ce qui est frustrant, c'est que lorsque le fournisseur de PDT nous fait passer le test et qu'il nous rejette, nous sommes rejetés par son interprétation. Et ce n'est pas la seule interprétation. Nous dirions que ce n'est pas toujours l'interprétation correcte. Si c'est une question d'interprétation et on n'est pas accepté, je pense que ce n'est pas bien. Je crois que le critère devrait être celui qui est spécifiquement exprimé par écrit. Si ce n'est pas sur le guide du candidat ou sur le contrat, nous vous demandons de bien vouloir réviser les critères pour accepter ou rejeter les candidatures. Merci Jeff. Dans l'exemple que tu nous as donné sur la conformité aux normes W3C, bon, cela est correct, ce que tu as dit c'est correct, ce n'est pas une condition et je suis étonnée que l'on vous ait dit les choses de la sorte. Je vais voir ce qui s'est passé. J'ai oublié la deuxième question, pardon. Ah oui, c'était les ASN. Bon, c'est une condition qui ne vient pas du guide, c'est une condition technique imposée par l'INA. Et là, nous faisons passer le test tel que l'INA le fait. Pour pouvoir être accepté au PDT, il faut respecter ces conditions. Et d'où est-ce que l'INA a tiré les informations pour établir cette condition? Bon, il y a eu une consultation publique et cette condition a été imposée à un moment donné. Ce que je veux dire, c'est que les conditions sont les suivantes. Les noms doivent être sur deux réseaux topologiquement séparés, mais notre interprétation sur cela est différente de la vôtre. Et alors, nous n'avons pas été acceptés, nous avons résolu la question, cela a été corrigé, parce que ce n'est pas, enfin, tellement problématique d'y trouver une solution, c'est beaucoup moins problématique que de nous plaindre auprès de vous. Mais il y a des différences dans l'interprétation qui ne sont pas reflétées dans ces documents clés que les candidats ont signés pour lesquels ils ont donné leur accord.
Est-ce qu'il y a un commentaire en ligne? Oui, c'est un commentaire de Christopher Nimai. Est-ce que le contact principal pour la candidature n'est pas le contact de PDT? Comment le contact de PDT peut utiliser le système SCC? Y a-t-il des contacts séparés? Très bonne question. Il peut y avoir des cas CCC se trouvent dans le microsite. Cela se trouve dans la partie des nouveaux GTLD. Vous savez où le trouver, sur la page des candidats du microsite. Donc, vous pouvez utiliser un courrier électronique pour montrer quel est le cas et nous y répondons par le biais de notre outil. Ou bien, vous pouvez travailler avec le contact primaire pour que le cas soit affiché dans le portail. Très bien. Très bonne question. Amadeo Abril prend la parole. Le contact PDT. Ça n'a pas été assez difficile et avec l'outil de messagerie que vous avez créé, je pense que tout cela sera beaucoup plus simple. Je regrette, insister sur ceci, mais il faut davantage de précision par rapport à une réponse que vous avez donnée à Kiss. Quand vous dites maintenant et avant, avant c'était des tests bêta et maintenant ce sont des tests réels pour les extensions EPP. Quand on dit désormais, on ne parle plus de tests bêta, on parle des extensions EPP. Parce que dire avant et maintenant, cela pourrait faire référence aux tests bêta, aux premiers tests bêta qui ont eu lieu en mars. On peut préciser cela. Je pense que nous l'avons fait en interne il y a quelques semaines, cette précision. Et nous essayons d'établir une définition dans ce sens. Ce qui s'est passé il y a une semaine, ce serait avant. Et le maintenant, ce serait désormais, à partir de cette semaine. C'est une question valable. Avant de publier les spécifications, nous voulions préciser cela. La deuxième question est la suivante. Nous avons présenté certaines demandes de précision à travers le service client. Certaines de ces demandes concernaient les extensions EPP, d'autres concernaient le DNS 04, parce qu'on a différentes interprétations par rapport au maximum et au minimum. Résoudre ce problème n'a pas été difficile, mais j'ai une question de procédure. Ne pensez pas à des exemples concrets, mais plutôt à la procédure, car cela c'est une question qui a été posée en ligne. Francisco a répondu avec un exemple précis, mais ce n'est pas le cas ici. Beaucoup d'entre nous avons reçu des demandes des évaluateurs pendant les tests bêta pour qu'on change nos candidatures. Et dans ces documents, comme dans cette annexe, il y a une date qui manque. Pourriez-vous ajouter la date et envoyer le fichier correct? Ou bien on nous a dit, on croit que vous répondez à cette question et ce n'est pas correct, etc. Alors qu'il s'agissait d'une question d'interprétation. Peut-être que ce que les évaluateurs veulent recevoir est correct, mais la question est la suivante. Est-ce que nous pouvons juger cela, ce que l'on doit donner aux évaluateurs et ce qui doit passer par l'ICANN? Lorsqu'il y a un changement demandé au processus, donc pour les tests bêta, pour les tests PDT, pardon, nous avons toutes ces nouvelles exigences. Mais il y a beaucoup de parties sous contrat qui ne peuvent pas ne pas passer par l'ICANN. Donc ma question est la suivante. S'il manque une date et que cette demande de précision arrive par le biais de l'évaluateur et que nous nous rendons compte qu'il manque cette date sur un document de 20 pages, est-ce que cela est un point critique? Est-ce que cela est quelque chose de majeur pour dire qu'on ne respecte pas une certaine exigence? Christine prend la parole. Pour des questions de temps, car la séance va bientôt finir, vous avez raison, une fois que l'on est une partie sous contrat et qu'on est dans les tests de prédélégation, il ne faut pas présenter de demande de changement pour réaliser ce type de changement. Je vais demander à l'équipe de vous expliquer cela en dehors de la séance, à moins que vous ayez quelque chose de plus détaillé à expliquer. Nous essayons de faire en sorte que l'approche que nous utilisons pour évaluer soit plus en ligne avec ce que nous avions. C'est-à-dire, nous avons essayé de valider par rapport aux exigences de l'accord de registre. Nous avons encore 3 personnes qui souhaitent poser des questions et des personnes qui sont en ligne aussi. Nous allons écouter les questions de la salle et puis nous allons passer passer aux questions en ligne, pardon. Je crois que Francisco a déjà précisé cela, mais peut-être qu'il faudrait repréciser. Il y a une spécification de XML pour les données de fichiers qui ne sont pas correctes et qui ne devraient pas avoir recours à cette spécification, peut-être. Oui, tel que tu l'as dit, dans le modèle de DNS d'entrée, il y a une erreur qui nécessite les instances de Anycast individuelles avec les données. Ce n'est pas une condition, donc nous allons corriger cela. Et puis, deuxièmement, je reviens sur la même question d'avant. Je sais qu'il s'agit d'une condition exigée par l'IANA, mais je sais aussi qu'il y a différents STLD et ainsi que des TLD génériques qui n'ont pas utilisé ces exigences, ou tel que Jeff l'a dit, peut-être que topologiquement séparé veut dire autre chose. Je pense qu'il faut discuter si cette exigence est vraiment correcte, les exigences de l'IANA, pour voir comment nous pouvons nous aider dans ce sens. Christine reprend la parole. Bien entendu, on pourrait continuer, mais Ken Davis est ici et peut-être qu'il pourra nous en parler davantage ou nous préciser un petit peu plus cette question. Kim Davis prend la parole. Le comportement que nous constatons, c'est le résultat du fait que ces tests ont lieu dans des instances où il y a des échanges de noms. Cela est utilisé depuis 2007, mais il y a beaucoup de noms qui ont été établis avant cette date. En ce qui concerne l'applicabilité, il y a différents avis par rapport à la façon correcte de mettre en place ce test. Oui, je pense que le dialogue serait utile. La façon dont cela a été interprété par l'IANA au cours des 6 dernières années, c'est ce qu'a mis en place le fournisseur de PDT. Le but étant de s'assurer que le PDT nous permette de savoir qu'il n'y aura pas de surprise dans l'avenir. Ma question est la suivante. Quel est le forum adéquat pour poser ou pour soulever ce point, cette question? C'est avec auprès de toi? C'est où? C'est une bonne question. Les procédures que nous avons mises en place en ce moment, les procédures d'IANA ont un processus de vérification différent par rapport à ceux qui sont utilisés par l'ICANN. Beaucoup de consultations publiques ont été mises en place. Et nous devons supposer que ces vérifications seront établies dans pas très longtemps, à moins qu'il y ait davantage de consultations ou des corrections. Alex Melfon prend la parole. J'ai deux questions liées entre elles. La première est la suivante. Pouvons-nous supposer que les documents émis le 12 juin sont des documents définitifs? Et la deuxième question, il y a un problème avec l'un des tests EPP, des registres qui nécessitent l'approbation des noms de domaine. J'ai parlé avec quelqu'un de l'équipe de PDT. Le problème, c'est qu'un test demande à ce que l'on fasse une mise à jour immédiate de ce nom de domaine. Et bien évidemment, il y a un refus si cela n'est pas fait. Il y a des mises à jour dans les documents par rapport à cela? Votre collègue m'a dit que le test allait être divisé en deux. D'un côté, un test de création et un test de mise à jour. Mais je ne sais pas si cela est vraiment le cas ou si c'est différent. Christine prend la parole. Je crois me rappeler de quelque chose dans ce sens, mais on le verra plus tard. Les documents sont définitifs. Bon, en ce qui concerne le mot définitif, bien entendu, il y a des choses qui vont être mises à jour pendant cette semaine. Nous allons travailler sur ces documents et nous allons les mettre à jour dans la mesure du possible. Pour les tests, il n'y a pas de modification, mais en réalité, il y a plutôt des précisions qui seront introduites. Nous ne devons pas nous attendre à des changements majeurs. Jeff. Nous allons écouter la question de Jeff. Ma question sera courte. J'ai une question par rapport au site web et à l'information qui y figure. Nous avons eu des problèmes avec certaines informations et certains fichiers que nous n'avons pas pu télécharger. La communication avec vous était très bonne. Nous avons pu vous envoyer un email, vous l'avez confirmé. Par exemple, avec les données concernant l'agent de dépôt de données, Vous avez pu télécharger les informations que nous vous avons envoyées, mais nous n'avons pas pu télécharger la partie binaire et nous avons dû vous envoyer tout par courriel. Est-ce que cela va être précisé de sorte que les gens puissent envoyer la documentation par le biais de courrier électronique? Parce que ce n'était pas vraiment très clair. Je veux m'assurer que cette voie soit disponible pour nous au cas où l'on n'y arriverait pas à télécharger les informations de façon adéquate. Je voudrais savoir s'il y aura d'autres changements introduits dans l'interface, car il y a d'autres éléments qui ne peuvent pas se présenter, qui ne peuvent pas être envoyés à moins que l'on ait les trois éléments exigés. Il faut que les trois fichiers soient mis à jour. Je ne sais pas s'il y a des suggestions dans ce sens, peut-être pour la prochaine série. Toutes ces questions sont nouvelles pour moi. Je ne suis pas prêt à vous en donner une réponse, mais à vous y donner une réponse. Mais nous n'avons pas envisagé des changements pour l'interface. Si cela est nécessaire, bien sûr, nous y introduirons des modifications. Et en ce qui concerne le dépôt de données, ce qui est important, c'est de pouvoir rouvrir l'interface afin que vous puissiez nous renvoyer les informations, même si vous nous les envoyez par email. Ce serait intéressant de pouvoir rouvrir l'interface et renvoyer ces fichiers. Il faudrait voir de quel type de fichier il s'agit. C'est quelque chose de nouveau, ce que vous me dites. Oui, c'est exactement ça. Je cherche une précision parce que quand on fera le test réel, on voudra éviter ce problème, justement. Nous avons un ensemble complet de documents. Ce sont les documents pour le PDP qui sont stockés. Mais je pense qu'on pourra se pencher sur cette question en profondeur dans une autre occasion. Les dernières questions, une question de Cal. Même si l'extension de la conversion de PP est mieux documentée dans le document d'information, merci d'ailleurs pour cela, y aura-t-il un mapping similaire pour tous les XML fournis ou pour les EPP, pour les commandes d'application réelle? Je relis la question plutôt, hein. Je pense que je vais relire la question. Oui, s'il vous plaît. Même si l'extension de la conversion de EPP est mieux documentée dans le document d'information, il y aura un mapping XT pour tous les XML fournis pour EPP vers les commandes EPP réelles? Nous n'envisageons pas la publication d'un schéma XML au-delà de ceux qui figurent dans les modèles d'entrée. Et la dernière question, PDT-CX, ma question est la suivante. Si le fournisseur de PDT va vérifier l'extension de DNSSEC établie dans la candidature pour voir s'il y a une corrélation exacte avec le système approuvé, parce que nous avons introduit des changements dans notre système pour que cela soit compatible avec le RFC5910. Nous voulons savoir s'il y aura d'autres vérifications. La seule extension EPP qui est vérifiée est la DNSSEC RFC5910. On espère qu'elle soit compatible avec cela. On espère, pardon, que le serveur EPP soit compatible avec ces spécifications. Une autre précision qu'il faut donner, c'est que si l'on ne veut pas soutenir cette spécification, cela doit être précisé, indiqué, et cela doit être notifié dans le processus prévu dans l'annexe A. Très bien, je pense qu'on a fini. Merci d'être resté jusqu'à si tard. Les questions étaient très intéressantes. On vous doit encore quelques réponses. Merci encore pour toute cette intervention, pour toute cette participation.